grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Mieux consommer dès le plus jeune âge pour bien gérer le budget familial, c'est notre menu du jour en ces temps de baisse du pouvoir d'achat. Victimes plus ou moins consentantes du marketing et de la publicité, les enfants, les adolescents se forgent également une identité à travers leur manière de consommer. Vous verrez qu'il est possible de faire de saines économies en leur expliquant les raisons qui les poussent à consommer tel produit, telle marque, tel service, de ralentir les consommations qui ne leur sont pas indispensables. Mais comment les aider à moins céder aux tentations consuméristes? Pourquoi sont-ils aussi sensibles au culte des marques, un culte qui affecte les finances parentales? Et quel est leur vrai pouvoir sur les achats à la maison? Pour nous éclairer ce matin, la conseillère en gestion de budget, Valérie Alphon, le professeur en marketing, Joël Bray, et le sociologue, Rémi Oudguiri. Et vous, comment faites-vous pour moins consommer en famille? Comment faites-vous pour limiter les désirs d'acheter de vos enfants et adolescents? Contactez-nous au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, à la une du 1 tout à l'heure.
On part de l'autre côté de la Manche, à Londres, là où ça peut être un très mauvais endroit pour le budget familial.
Et pour le shopping, à tout à l'heure, Julien Bisson, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Valérie Alphon.
Bonjour.
Bienvenue. Allez. Vous êtes conseillère en gestion de budget. Vous publiez chez Albin Michel Tout le monde en a un, sauf moi, sous-titré Libérer nos enfants de la surconsommation. Bonjour Rémi Oudguiri.
Bonjour.
Expert éclairé de cette émission. Vous êtes sociologue, directeur général adjoint du cabinet Sociovision. Bonjour Joël Bray.
Bonjour.
Vous êtes professeur en marketing à l'IAE de Caen et à l'ESCA d'Angers. Vous êtes spécialiste du comportement de consommation des jeunes. Alors Valérie Alphon, pour apprendre à moins consommer et donc moins dépenser, économiser, il faut d'abord comprendre pourquoi nous aimons consommer dès notre plus jeune âge. Et nous sommes accros de plus en plus jeunes, plus en plus tôt.
Oui, exactement. Mais en fait, c'est voulu quelque part, parce que de plus en plus, on cible les enfants de plus en plus tôt. Plusieurs exemples, hein. D'abord l'alimentation, vous avez dans les biscuits pour bébés, vous avez premier ingrédient du blé, le deuxième du sucre, le troisième l'huile de palme. Bon, c'est un peu tôt, hein. De toute façon l'huile de palme c'est pas très bon, mais du coup pour les bébés, un autre exemple, les chaises pour bébés avec la tablette intégrée, je veux dire, c'est complètement fou. Je pense que ça devrait même être interdit, vous voyez. Mais on les cible de plus en plus tôt. Un autre exemple, la beauté. Vous avez aujourd'hui des youtubeuses beauté.
Des influenceuses.
Influenceuses, on va en parler, qui ont 6 ans. Et qui font des tutoriels beauté pour des petites filles de 6 ans, qui sont suivies par des millions d'internautes. Donc, les enfants sont ciblés de plus en plus tôt et de plus en plus fort. Et justement, un des moyens, c'est toutes les techniques digitales.
Et tout au long de la journée, les enfants, les adolescents sollicitent tel produit, tel service. Tout le monde en a un, sauf moi, pour reprendre le titre de votre livre.
Oui, alors, cette phrase hein, qui je pense, beaucoup de parents entendent, c'est souvent celle qui va faire basculer hein, les parents, parce que, eh bien, ils ont parfois peur que leurs enfants soient différents des autres. Et bon, alors, bien sûr, tout le monde en a un. Est-ce que vraiment c'est tout le monde? D'abord, c'est la première chose. D'ailleurs, un petit truc que je peux donner déjà, c'est tout le monde. Tu peux me dire exactement combien c'est tout le monde? En général, ça peut être tout à fait 5 personnes sur 30. Ça, c'est un. Mais aussi, je pense que cette idée de tout le monde en a un, je rencontre plein de parents qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai craqué parce que tout le monde... » Mais tous les parents que je rencontre me disent « J'ai craqué parce que tout le monde... » Alors, c'est qui tout le monde? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et bien entendu, je pense que ce qui est très important, c'est se demander si on a envie que notre enfant ait telle ou telle chose. Parce qu'il y a des choses, hein, par exemple... les habits. Bon, bah, d'un autre côté, on va pas faire en sorte que nos enfants aient, soient habillés vraiment pas du tout à la mode. Genre, c'est pas un, ça peut ne pas être un problème. On peut trouver des vêtements même d'occasion aujourd'hui superbes et à la mode. Et c'est pas, à la limite, c'est peut-être pas un souci. Pourquoi on voudrait pas que notre enfant soit habillé un petit peu à la mode? C'est pas. Par contre, s'il y a quelque chose qui nous pose problème, par exemple, un enfant de 9 ans qui vous demande un smartphone. Mais même s'il est gratuit, c'est même parfois une question de prix. Mmh. Le problème, c'est que, bah, est-ce qu'on a envie que notre enfant de 9 ans ait un smartphone? Et du coup, là, on devrait se poser cette question. Tout le monde en a un, tout le monde n'a pas un. Si je ne veux pas ça pour mon enfant.
Alors, enfants et adolescents baignent dans une société qui a érigé la consommation comme valeur cardinale, Rémi Hautguéry. Ils sont pas totalement responsables, nos jeunes.
Non, ils sont d'autant moins responsables que ça fait des années, voire des décennies, que les marques essayent de remplacer les parents, en réalité, en s'adressant aux enfants. Les enfants sont très sensibles à l'émotion, donc le langage qui leur est adressé est un langage très émotionnel. Et puis, il y a un phénomène nouveau, c'est les enfants deviennent des marques très tôt. Le phénomène des influenceurs, c'est ça, en fait. Et donc, c'est encore plus compliqué parce que les enfants commencent à parler comme des marques, en fait, et influencent directement leur père. Et donc, ont un pouvoir d'influence infiniment plus grand que les marques. Et ça, c'est vraiment le phénomène des 3-4 dernières années où des enfants deviennent prescripteurs d'autres enfants. Et là, c'est plus les marques, c'est plus contre les marques qu'il faut se battre, c'est contre ses propres enfants.
Joël Bray, pourquoi les enfants et les adolescents sont des cibles quasiment parfaites pour les marques et les professionnels du marketing ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des cibles quasiment parfaites, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que il faut comprendre qu'un enfant, dans son développement, je dirais, c'est un compromis entre deux choses. D'une part, un certain nombre de caractéristiques intemporelles qui sont liées à ces différentes phases de développement. Et puis d'autre part, le reflet d'une époque. Or, on vit dans une société où la consommation est omniprésente. Et effectivement, les enfants, les adolescents, ne peuvent pas échapper à cette omniprésence. Si vous relisez un livre que vous avez certainement lu quand vous étiez enfant, qui est « La guerre des boutons », et que vous regardez la manière dont fonctionne le groupe d'enfants, vous retrouvez des choses qui sont extrêmement similaires à ce que vous pouvez observer aujourd'hui dans des groupes d'enfants de 2019. Ce qui va changer, ce sont les totems, ce sont les éléments qui sont valorisés, ce sont... À l'époque, dans une société rurale, les éléments étaient plutôt effectivement des choses qui n'avaient pas de valeur marchande en tant que telles. Aujourd'hui, les marques, les produits, des éléments effectivement qui permettent à chacun des enfants de pouvoir se retrouver dans ce qui fait l'identité du groupe va être effectivement l'élément de valorisation.
Est-il si facile d'influencer les jeunes consommateurs ?
Il est facile de les influencer à partir du moment où cette influence est valorisée par les autres. Je dirais qu'il faut voir à peu près 3 étapes dans le développement du jeune. Jusque 7-8 ans, l'essentiel de l'environnement social de l'enfant, c'est à la fois la famille et l'école. À partir de 7-8 ans, l'enfant va commencer à découvrir la valeur symbolique d'un objet, donc d'une marque également. Et ce qui est terrible à cet âge, c'est que la chose qui est la pire pour lui, c'est d'être différent des autres. Que ce soit sur le plan morphologique, que ce soit sur le plan des objets qu'il va utiliser, la moindre différence va se retrouver stigmatisée. Donc il veut absolument être, je dirais, exactement comme les autres. Et puis à partir de 12-13 ans, au moment où il quitte le monde de l'enfance et où il va rentrer, je dirais, dans une phase où tous ses repères sont un petit peu déstabilisés en attendant qu'il ait retrouvé un nouvel équilibre en tant qu'adulte, il va rejoindre une tribu autour d'une thématique dominante. Ça peut être le hip-hop, ça peut être l'informatique, ça peut être... Et je dirais que cette tribu va être pour lui un cocon qui va l'aider à passer cette période difficile parce que il va découvrir que bah, il y a d'autres individus qui sont comme lui, donc il y a un effet miroir, et puis ils vont l'aider à passer ce moment difficile. C'est un effet béquille.
Rémi Hautguéry.
Oui, je pense qu'ils sont sensibles aussi parce qu'ils se construisent, ils sont en train de construire leur personnalité, donc ils doutent d'eux-mêmes, ils ont besoin de modèles. Il y a eu une époque où les modèles étaient des modèles qui n'étaient pas marchands, marchand, mais cette époque est passée. Aujourd'hui, les modèles sont véhiculés par les marques qui promeuvent des imaginaires communautaires. Et donc, en fait, ils arrivent au bon moment. Enfin, d'ailleurs, quand les marques veulent cibler les adultes, en général, elles les ciblent comme s'ils étaient eux-mêmes des adolescents, parce que c'est en ciblant le manque de confiance qu'on donne de la confiance, en fait. Et en fait, les enfants consomment beaucoup pour se donner confiance. Ils achètent un style de vie, ils achètent un imaginaire, ils achètent des symboles. Et la consommation est essentiellement symbolique à cet âge, notamment à l'adolescence, alors qu'ensuite, il va devenir beaucoup plus fonctionnel et pratique. Avec l'âge, on prend distance par rapport à ça.
Valérie Elfond, pour vous, les marques profitent de l'insécurité des jeunes pour leur vendre de l'estime de soi.
C'est exactement ça, hein. C'est exactement ce que vient de dire Rémi. C'est ça, parce qu'en fait, comme l'enfant n'est pas sûr de lui, eh bien, la marque lui dit, regarde, tu vas mettre tel habit, tu vas être quelqu'un, tu vas avoir de la valeur. Et c'est là-dessus que, en tant que parent, on devrait rebondir. C'est-à-dire, en plus, c'est la facilité, hein. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit la marque? Tu n'as même pas besoin de creuser en toi, de développer quelque chose, hein, de développer ta vie intérieure ou tes qualités humaines, etc. Tu mets la panoplie et ça y est, tu es quelqu'un. Et on retrouve cette chose-là dans aussi bien dans l'alimentation, dans les écrans, cette idée de passivité. Hein. Tu fais le moins possible et nous, on s'occupe de tout.
Alors Valérie Elfond, j'ai lu dans votre précédent ouvrage qui s'appelle « Slow Shopping Therapy, consommez moins, vous irez mieux », que vous étiez économe dès le plus jeune âge et que vous étiez assez peu sensible aux sortilèges du marketing, de la publicité, de l'influence de groupe. Grâce à votre comportement, vos parents ont fait de sacrées économies.
Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je pense que dès très jeune, je me suis rendu compte qu'en fait, le bonheur n'était pas dans ça. Les économies, bien sûr, c'est la conséquence de quelque chose. Enfin, c'est vrai, bien sûr, on fait des économies parce qu'on n'est pas là-dedans. Mais personnellement, j'ai toujours eu cette conviction que il fallait pas chercher dans la consommation le bonheur. Et je pense que c'est au centre des deux ouvrages, hein, que j'ai écrits. En fin de compte, hein, c'est d'ailleurs pour ça que mon premier livre s'appelle « Consommez moins, vous irez mieux », c'est parce que je suis persuadée de ça.
Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Hautguéry?
Qu'il faut moins consommer
et que ça permet d'aller mieux.
Alors, je pense que oui, dans l'absolu. Après, je pense que pour convaincre les adolescents, c'est déjà un peu plus compliqué. Moi, ce que j'observe maintenant, il y a quelque chose qui est en train de monter, c'est que c'est la première génération qui est confrontée à un certain nombre de sujets qui remettent en question la consommation. On pensait aux marches climatiques là, qui ont déjà eu lieu. En Belgique, en Suède, etc. Elles sont portées par les enfants. Et donc, on est peut-être à un tournant. Alors, je fais une hypothèse, et ça, c'est un tournant, une prise de conscience que finalement consommer ne donne pas la clé du bonheur. Il y a un autre phénomène intéressant chez les enfants, c'est le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion est en plein boom partout en France, mais les enfants, les adolescents sont de plus en plus à demander. Et ça aussi, c'est un changement qui va un peu dans votre sens.
Joël Bray.
Oui, moi je suis assez d'accord avec cette analyse. Alors même si c'est pas forcément quelque chose qui va aller vers du consommer moins, mais qui va aller vers du consommer mieux. Aujourd'hui, quand on interroge les adultes, tous sont effectivement majoritairement favorables à la consommation responsable, au développement durable, mais on observe souvent un décalage important entre ces déclarations qui sont souvent extrêmement sincères et puis la réalité des actes de consommation. Je pense que travailler sur les enfants, les rendre sensibles effectivement à tous les enjeux qui aujourd'hui sont les enjeux sociétaux et dont la consommation doit s'emparer, est certainement le moyen le plus efficace pour que justement toutes ces tendances du mieux consommer puissent s'inscrire dans la société et devenir finalement les normes de consommation de demain et d'après-demain pour tout le monde.
Et vous, comment faites-vous pour gérer le budget familial sans trop céder au désir consumériste de vos enfants et ados? 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexa Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Beauve, à la réalisation, David Leprince.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles, elles très fières sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elle affiaire sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Alain Souchon sous les jupes des filles.
Ah, encore de la publicité.
Il y en a marre de cette bulle de consommation dans laquelle ils nous font vivre.
Grand bien vous fasse.
Alors maintenant, on éteint sa petite télé, on prend son petit porte-monnaie et on va filer ça dans son supermarché pour écouler les stocks.
Sur France Inter.
10h25, mieux consommer pour bien gérer le budget de la famille, c'est notre thème ce matin, avec un focus sur la consommation des enfants et des ados, avec la conseillère en gestion de budget Valérie Alphon, le professeur en marketing Joël Bray et le sociologue Rémi Houdguéry.
Hé les enfants, regardez, c'est la nouvelle peluche Herbie avec sa fourrure spéciale pour vous tenir chaud la nuit.
Mais faux mail.
Herbie n'est pas vendu dans le commerce, alors commande vite ta peluche en appelant numéro qui va s'appeler.
Oh, Falute, oui, je peux t'apporter du bonheur, je peux forcer tes frères à être gentils, je peux m'arranger pour que tu n'ailles plus à l'école, tes parents ont une folle envie de m'offrir à toi, tout ce que tu as à faire c'est de leur demander de m'affeter, ils sont dans la cuivine, va leur poser la question, allez, va leur demander.
Tu peux m'acheter une peluche Herbie?
Non, c'est trop cher.
Tu peux m'acheter un Orbi, maman?
Je viens de te dire non, t'es bouché ou quoi?
Dialogue entre un enfant et sa mère dans la série comique Malcolm. Alors Valérie Alphand, qu'il s'agisse d'alimentation, de vêtements, de jeux, de jouets, difficile pour les enfants et adolescents de résister aux sirènes de la surconsommation.
Tout à fait, j'aime beaucoup là pour réagir par rapport à ça. Je pense que quand un enfant vient nous demander qu'on lui achète quelque chose, souvent la première action c'est trop cher. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que le prix, bien sûr, il entre en compte, mais ça ne doit pas être... uniquement la seule question qu'on doit se poser, c'est surtout, est-ce que je veux ça pour mon enfant? Et aussi, c'est une opportunité de discuter avec notre enfant de choses importantes. C'est-à-dire, est-ce que ça va te donner de la valeur? Et à la limite, on devrait même se dire, chouette, mon enfant est en train de me demander quelque chose. Pas uniquement passer en mode automatique, je veux pas, pourquoi, comment, mais surtout se dire, c'est une occasion de discuter de choses importantes. Alors par exemple, ça peut être aussi, s'il veut une paire de chaussures, etc., discuter de la manière dont elles sont faites. On pourra discuter, s'il veut tout le temps des vêtements de la fast fashion, on pourra discuter de sujets importants. Et donc là, on a une opportunité et il faut voir les choses comme ça.
Rémi Hudguéry.
Oui, je pense que le prix, c'est pas vraiment un critère, d'autant qu'aujourd'hui, ils peuvent comparer eux-mêmes. Ils ont accès très tôt, en fait, aux informations via Internet, via leur smartphone. Donc, ils peuvent très, très vite vous dire, bah oui, mais je peux l'avoir à moitié prix ou à tiers de prix. Enfin, donc je pense que c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, le fait d'échanger, mais régulièrement, en mettant des limites, je pense que c'est de la bonne direction, en fait.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Courbouzon, c'est où ça Courbouzon?
Dans le Loir-et-Cher, un petit village à côté de Mer, mais bon, vous connaissez pas Mer non plus.
Non, pas du
voilà,
tout.
Voilà, un petit village du Loir-et-Cher.
Alors, vous avez 5 enfants, c'est ça, de 2 à 18 ans. Alors, comment ça se passe pour limiter leur désir de surconsommation sans que cela grève trop votre budget familial?
Ben nous, on essaye déjà, comme je disais, de développer leur esprit critique, leur dire, enfin, voir par rapport si c'est solide, tout ça. Mais surtout, déjà, le premier truc, c'est est-ce que t'en as besoin? Quand ils sont plus grands, est-ce que vraiment t'en as besoin? Et puis, voilà, par exemple, le téléphone portable, ben forcément, quand ils sont rentrés au collège, à un moment, un téléphone portable, tout le monde en a un, machin. Je dis, oui, mais est-ce que t'en as besoin, toi? Tu vas faire quoi? Ah, ben pour appeler, ben oui, mais du collège, tu peux appeler, tout ça. Et puis après, voilà, voir vraiment s'ils en ont besoin. Donc ils en ont, les plus grands qui sont au collège, il n'y a que celui en sixième qui n'en a pas encore. Après, je vois la tablette, maman j'en veux une, bah oui mais bon tu as ça, voilà.
Et vous arrivez à leur faire comprendre que mieux consommer c'est vivre mieux?
Je pense que oui, après je dis pas qu'ils consomment pas, mais ils sont pas attachés à la mode non plus. Puis nous on n'est pas forcément attachés à la mode non plus, donc peut-être que ça joue aussi. Quand les parents sont très sensibles à la mode, forcément ils ont envie que leurs enfants soient pareils.
Et donc vos enfants arrivent à résister à la tentation de faire du shopping sur Internet ou dans des centres commerciaux?
Ah bah ça déjà on n'y va pas trop, mais parce que moi-même j'aime pas trop ça. Et puis non, mais ils sont pas shopping, hein. Ils y vont, voilà, t'as besoin de vêtements, on va en acheter, t'en as pas besoin, je vois pas pourquoi on en achèterait, quoi. Ils sont comme ça, c'est vrai qu'ils fonctionnent quand même assez au besoin.
Valérie Alphand.
Et après, pardon, je refuse pas non plus les... Donc des fois, faut savoir aussi leur faire plaisir, enfin, c'est pas tout le temps non. Et quand ils sont petits aussi, par exemple, c'est pas « non, tu l'auras pas », c'est « ah, t'aimerais bien avoir ça, oui, c'est vrai que si t'avais ça, ça serait chouette ». Faut savoir aussi les faire rêver, je pense, quand ils sont petits. Des fois, juste leur dire « ah ouais, ça serait chouette si t'avais ça, tu ferais ça, ah ouais, dis donc ». Et puis, en fait, après, ça passe, quoi.
Valérie Alphand.
Ah, je suis entièrement d'accord avec Cécile. Elle dit une chose très importante, c'est d'abord nous. C'est-à-dire, ce sont nous les parents, ça commence en nous. Si nous, on n'est pas complètement dans la consommation, même pas du tout, eh bien... plus on sera sûr de son chemin et plus les enfants le seront aussi. Ça, c'est la première chose. Et aussi, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, cette idée de oui, on peut ils peuvent en rêver, hein, surtout autour de Noël où il y a énormément de demandes, de cadeaux, etc. Oui, on peut en rêver, mais on n'est pas obligé de dire oui du tout.
Rémi Hudguéry.
Oui, je pense qu'il y a un élément important. On a parlé d'ailleurs de la fonction symbolique, identitaire de la consommation. Il y a aussi la fonction sociale. La dame parlait des centres commerciaux. Beaucoup d'ados vont dans les centres commerciaux simplement pour socialiser, en réalité. Souvent, ils n'achètent rien. D'ailleurs, ils essayent, éventuellement, ils s'amusent. Et c'est pour ça que la consommation, c'est pas tout bien, tout mal. Enfin, il y a aussi une fonction sociale.
Non, mais on éprouve également du plaisir à consommer dans ces temples alléchants que sont les centres commerciaux.
Exactement, oui, ça fait partie des plaisirs. Enfin, pour un ado, ça fait partie des plaisirs. Encore une fois, les centres commerciaux aujourd'hui, ils ont du mal à rentabiliser leurs espaces parce qu'on n'achète plus, on va là-bas, on se promène, on s'amuse et puis on rentre chez soi à acheter sur Internet.
Joël Bray.
Oui, je crois qu'effectivement, il faut voir la visite des magasins, des centres commerciaux, d'abord et avant tout comme une expérience pour les ados. On va partager quelque chose en commun, notamment pour les adolescentes. Après, c'est vrai qu'on peut aller découvrir des produits en magasin et puis les acheter sur Internet ou faire des recherches sur Internet et aller les acheter en magasin. Je dirais que on est dans une logique où à la fois la distribution digitale et la distribution physique vont s'interpénétrer et c'est difficile de savoir finalement lequel devient la source d'information et lequel va devenir l'endroit où on va réaliser réellement la transaction.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. Valérie Alphand, n'oublions pas que beaucoup de familles issues des classes populaires rêvent de faire partie de cette société de consommation. C'est un rêve légitime.
Tout est légitime, enfin, je veux dire.
Avec des enfants et des adolescents qui poussent à la consommation pour ressembler, comment dire, à leurs camarades qui consomment beaucoup.
Mais alors, quand je rencontre des gens qui ne peuvent pas acheter et qui voudraient, d'abord, je leur pose cette question. Est-ce que vous pensez, vous voulez, vous, que votre enfant ait cette chose-là? Parce que une fois, j'ai rencontré une dame qui me disait, moi, je voudrais que mon fils ait une tablette, un téléphone. Il avait 7 ans, 8 ans. Tout le monde en a. Enfin, voilà, les copains ont ça. Et je lui dis, mais est-ce que vous voulez, vous, qu'il ait cette chose-là? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il va devenir zombie? Parce que c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Dans toute la partie sur les écrans, on parle des... Il y a les jeux vidéo. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils sont faits d'une manière qui rend de plus en plus difficile le fait de décoller. Hein. Les enfants deviennent parfois addicts. Donc, est-ce que nous, on a envie que notre enfant risque d'être addict aux jeux vidéo dès l'âge de 8 ans? Donc, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Au-delà, alors, bien sûr, le prix, c'est évident que si on n'a pas, on ne va pas se ruiner, enfin, en tout cas, s'endetter pour acheter la nouvelle console de jeux vidéo que tout le monde a. C'est clair que non. Mais il faut aussi parler avec les enfants de ce qu'on veut, ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a cette idée de, quand vous me dites qu'on n'a pas d'argent, sur cette angoisse de dire on est pauvre. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire si on leur dit non? Et pour répondre à ce questionnement, je dis, mais il faut montrer aux enfants ce qu'on fait avec l'argent. Et là, c'est positif. On dit, ben, regarde, on a un toit, etc. Et aussi, on a des objectifs et des priorités. C'est-à-dire que je vais dire à mon enfant, voilà comment nous, on gère l'argent. Alors, par exemple, pour le moment, on n'achète pas ça parce qu'on peut, on met de l'argent de côté pour peut-être partir en week-end ou en vacances ou je sais pas. Donc, dès qu'on explique à l'enfant qu'on a un plan et on a un objectif pour l'argent, ben, c'est plus facile.
Question de Julien Bisson de l'hebdomadaire Le.
Oui, je me demandais à quel âge les enfants justement rentraient dans ce circuit de consommation. Je veux dire par là, rentrer dans un circuit de consommation déjà dans un supermarché en disant mais tiens, je voudrais telle poupée, telle ceci. Et un deuxième moment, quand est-ce qu'ils ont conscience que ce qu'on achète justement dans le supermarché a un prix, vaut de l'argent et ont cette notion de l'argent?
Joël Bray.
Je crois que c'est une conscience qui arrive très jeune. Ils voient effectivement que leurs parents, chaque fois qu'ils passent à la caisse avec un chariot qui est plein, vont donner des billets, vont donner des pièces. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est d'évaluer effectivement, je dirais, la valeur relative de ces produits. Quand on fait des études, et il y a des psychologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus, on s'aperçoit que pour un enfant de 4-5 ans, la pièce qui a la plus de valeur, c'est celle qui est la plus grande. C'est pas forcément celle qui a la valeur faciale la plus importante. Donc, je dirais qu'il faut un certain âge, vers 7-8 ans, pour commencer véritablement à intégrer le prix des produits. Ils connaissent le prix d'un bonbon qui coûte quelques centimes d'euros. Dès qu'on est sur des produits qui valent quelques euros, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, là on est dans quelque chose qui relève de l'abstraction totale pour eux.
Joël Bray, quelle est l'influence des enfants et des adolescents dans la consommation d'une famille en termes de décision d'achat? Quel est leur vrai pouvoir de prescription?
Alors le pouvoir de prescription est important, alors il va aller croissant au fur et à mesure que l'enfant grandit, mais Vouloir, par exemple, aujourd'hui, donner à un enfant de 3-4 ans le vêtement du grand frère qui n'est pas encore usé, c'est quelque chose qui est impensable, alors qu'il y a 15-20 ans, c'était un petit peu la norme. Donc plus l'enfant va grandir, plus il va être consulté sur un certain nombre de postes de consommation familiale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que avec l'évolution très rapide d'un certain nombre de choses, je pense notamment à tout ce qui relève du digital, on s'aperçoit que on rentre dans des logiques aujourd'hui qui sont des logiques un petit peu inversées. Pendant longtemps, la transmission en matière de consommation s'est faite presque essentiellement des parents vers les enfants. Et on assiste de plus en plus à une logique de socialisation inversée où la connaissance va se trouver chez les enfants et les parents vont être demandeurs de cette connaissance. Et là, le poids des enfants va être extrêmement important dans le choix d'un produit qui les dépasse totalement.
Rémy Hautegaire.
Oui, je pense que ça, c'est une mutation majeure. C'est une génération qui a du pouvoir sur ses parents parce qu'elle détient les clés de l'avenir qui est digital, en fait. Et donc, détenant ces clés, elle est d'autant plus écoutée. Donc, ça rend plus compliqué. Alors, ça rend plus facile d'un certain côté le dialogue parce que on a besoin l'un de l'autre, mais ça rend plus compliqué d'avoir de l'autorité sur quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Parce que les parents eux-mêmes se posent des questions sur leur propre avenir professionnel. L'émergence des intelligences artificielles, la numérisation de pans croissants de l'économie font qu'ils se posent des questions sur leur propre avenir. Et ils voient bien que leurs enfants naviguent ou vont naviguer là-dedans comme des poissons dans l'eau. Et donc, ils s'appuient aussi sur leurs enfants. Donc, c'est le moment particulier qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion aussi à ce niveau-là.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue, vous habitez en Belgique et vous êtes le fondateur de Famille en Transition. C'est quoi exactement Famille en Transition?
Donc les familleentransition.com au pluriel, c'est un nouveau mouvement qu'on a créé puisqu'il y avait déjà les villes en transition, il y avait les rues en transition, on parle évidemment de la transition écologique et solidaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, la plupart des actes d'achat, comme vos interlocuteurs en ont parlé, ces actes d'achat se déroulent surtout en famille et finalement mieux consommer dès le plus jeune âge pour bien gérer son pouvoir d'achat, ben, ça commence surtout par les familles et donc on a voulu rassembler les familles qui sont en transition écologique et solidaire pour discuter de tous ces sujets-là.
Alors voilà. Mathieu, vous êtes le père de deux enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Quelles sont les décisions que vous prenez au quotidien et comment vous expliquez tous vos choix à vos enfants?
Alors la plus grande décision qu'on a prise pour libérer nos enfants et nous libérer nous-mêmes de la surconsommation, pour être honnête, c'est de limiter les écrans. Donc par exemple, on n'a pas de télévision à la maison. Mm-hmm. Pourquoi on fait ça? Bah, parce qu'évidemment, la surconsommation, elle est poussée très fortement par la publicité, évidemment, c'est l'objectif. La publicité, c'est quand même l'art de persuader les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Quelqu'un, une fois qu'il a dit ça, je trouvais ça très intéressant. Et donc, ce qu'on explique à nos enfants, et c'est vraiment important de leur expliquer, ils sont capables de comprendre, même ma fille de 6 ans, qu'en fait, il faut... Donc, au moins, on a de bien. Au plus, on peut passer du temps ensemble. Et comme disait votre interlocuteur précédent, j'ai l'impression que c'est vraiment une bonne nouvelle dans la société. Il y en a beaucoup de mauvaises, mais il y en a une très bonne, c'est qu'il y a une révolution culturelle qui est à l'œuvre pour réaligner en fait sa consommation avec ses propres besoins. Et je pense que les générations qui nous suivent, moi j'ai 36 ans, générations qui nous suivent, qui marchent pour le climat, qui sont un peu moins... perturbés, j'ai envie de dire, par la publicité classique qui se renseigne sur Internet, qui ont accès à cette connaissance, en fait, voilà, qui a moyen de consommer différemment et de diminuer radicalement l'influence de ces pubs, ben c'est plutôt réjouissant.
Merci beaucoup Mathieu d'avoir témoigné ce matin. Votre site, c'est familleentransition.com, c'est ça?
Tout à fait. Il y a encore un petit quelque chose que je voulais rajouter.
Bien sûr, allez-y.
Ça ne dérange pas.
Bien sûr.
Qui est en fait le cœur du message aussi, c'est qu'on n'achète pas les objets qu'avec de l'argent, en fait. On les achète avec des heures de notre vie. Et quand on explique ça aux enfants, mais que s'ils veulent absolument ce nouveau jeans à la mode, ou ils veulent absolument ce nouveau gadget qui est un besoin, qui est une envie plutôt qu'un besoin, eh bien, c'est des heures en plus que papa ou maman doivent passer pour gagner cet argent. Des heures à les choisir, à choisir cet objet, et puis à gérer les déchets en fin de vie. Et finalement, ça, c'est moins de temps passé en famille. Donc en fait, au moins, on a d'objets à gérer, au plus on a du temps pour soi, et au plus on se sent libre, et du coup, on peut passer du temps avec les enfants. Et si on demande vraiment aux enfants ce qu'ils ont besoin, eh bien, ils ont besoin de temps avec leurs parents, avec leurs amis, etc., beaucoup moins beaucoup moins. Enfin, ils ont beaucoup plus besoin de ça que de choses inutiles.
Valérie Alphand. Voilà.
Ah ben, je suis complètement d'accord, hein. C'est tout le sujet du livre. Et j'aime beaucoup cette idée de concertation. Parce que les parents, parfois, se sentent seuls, ils se disent oui, mais voilà, hein, cette idée de tout le monde, etc. Et là, de se regrouper, par exemple, en début d'année, de dire, voilà, l'année scolaire, de dire, ben, cette année, on fera pas des anniversaires grandioses, par exemple, parce qu'il y a aussi une surenchère là-dessus. Hein, cette année, on n'achètera pas tel et tel vêtement de marque ou console vidéo, etc. Donc et là, c'est super important.
Rémieux de Guéry.
Moi, je pense qu'il y a quand même une limite à l'exercice. C'est-à-dire quand même, on est à un âge où on a besoin de liberté, on a besoin d'émotion, on a besoin de plaisir. Et donc, à un moment donné, un discours un peu trop rationnel va se heurter à quelque chose. En tout cas, va frustrer potentiellement les choses. Donc, c'est important d'aller vers du consommer mieux, mais il faut aussi garder à l'esprit que cette période particulière de la vie, c'est la période de l'expérimentation. Donc, on fait aussi des erreurs. On essaye des choses. Parfois, on fait des excès alimentaires, des excès... Peut-être qu'on achète trop de vêtements à un moment donné. Mais c'est important d'être passé par cette phase-là pour ensuite s'en détacher. Et c'est là où les discours qui ont été préparés, les échanges, peuvent avoir un effet.
Merci beaucoup, hein, Mathieu, d'avoir témoigné ce matin. Allez, il est l'heure de retrouver Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Alors, à la une, cette semaine, vous traversez la Manche pour aller voir ce qui se passe du côté de nos amis britanniques.
Et oui, mon cher Ali, car je suis comme vos ados, on m'a toujours appris que toutes les meilleures modes venaient de Londres ou du fin fond de l'Essex, si comme moi vous avez trop écouté Prodigy quand vous étiez un petit peu plus jeune. Alors, nous sommes allés voir dans ce numéro un peu voir ce qui se passait au Royaume-Uni avant qu'il ne soit bientôt trop tard. Trop tard en tout cas pour un week-end shopping top stylé chez Harrods ou Marks & Spencer. Car je ne vous l'apprends pas, le Brexit approche à grands pas. Nous sommes désormais à moins d'un mois de la date de divorce prévue et à quelques jours d'un vote décisif aux communes sur l'avenir du pays. Et le Royaume-Uni se trouve aujourd'hui dans une situation plus confuse que jamais. Incapable de s'accorder sur la moins mauvaise des solutions, les députés britanniques ont pour l'heure choisi la pire, en privant Theresa May d'un mandat et d'une vision claire. Et alors que la séparation se rapproche jour après jour, nul n'imagine plus désormais la couronne filée à l'anglaise, sans perte ni fracas. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment la fière Albion, qui dictait il y a peu encore ses règles à l'Europe, est-elle devenue si fragile au point de ressembler désormais à un royaume désuni? C'est ce que nous essayons de comprendre dans ce numéro du 1.
Alors Julien, quelles sont les principales fractures qui traversent le Royaume-Uni?
Eh bien, il y en a au moins trois. La première, la plus évidente, elle est géographique. Au désir de repli anglais s'oppose l'attachement européen des Écossais et des Irlandais, un attachement qui pourrait relancer les velléités d'indépendance des premiers ou encourager le rapprochement des deux Irlandes horrifiées à l'idée de voir se rouvrir une cicatrice au milieu de leur île. La seconde fracture, elle est sociale. Ça, c'est ce qu'explique bien l'écrivain David Lodge dans nos pages. Le vote sur le Brexit a révélé le fossé qui se creuse entre deux franges de la population britannique. L'une plutôt jeune, libérale, cosmopolite et urbaine.
Comme vous.
Voilà. L'autre plus âgée, blessée par la fermeture des anciens bastions industriels et l'effondrement du système hospitalier. Enfin, au moment même où il aurait besoin d'un leadership fort pour le guider, le pays connaît aujourd'hui un paysage politique en morceaux où chacun des deux grands partis traditionnels, conservateurs et travailliste, se trouve déchiré en son sein par des dérives populistes. Tiens au passage une mode anglaise qui me rappelle quelque chose et qui a peut-être déjà traversé la Manche. Bref, c'est un royaume profondément divisé qui s'apprête à faire le grand saut dans l'inconnu. Un royaume où le common sense a laissé la place au nonsense, aux arguties et à la confusion érigées comme règles. Alors attention, il ne s'agit pas pour autant de faire preuve de catastrophisme. Si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout. C'est l'écrivain George Bernard Shaw qui était irlandais lui-même qui le disait. Survivre à tout, oui, sauf peut-être à la désunion.
Et vous pouvez d'ailleurs lire les pensées de George Bernard Shaw chez, je crois que c'est chez, au Cherche Midi. C'est plutôt bon. Merci beaucoup Julien Bisson. Brexit, le Royaume des Unis, c'est le grand dossier à retrouver dans le 1 cette semaine en kiosque et en librairie. Allez, dites-nous comment vous faites pour ne pas trop céder aux désirs consuméristes de vos enfants et de vos adolescents au 01 45 24 7000. Oh,
Got a very big ego, embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the sleaze though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy, need my boy fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing. I'm a woman who could teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I rate my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't phase, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep the night.
And hate can never be friends. Don't rush everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I, I'm so selfish. Guess I'm meant to know.
Little Sims interprétait Selfish.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48, mieux consommer pour mieux gérer le budget de la famille, avec un focus sur la consommation des enfants et des ados. C'est notre thème ce matin, standard ouvert au 01 45 24 7000.
Je peux plus voir mes fringues, elles sont débiles et grotesques. Je passe une audition pour le club de théâtre et j'ai rien à mettre.
Chérie, si tu veux, je vais t'aider à trouver des habits pour ton audition.
Oh oui, tu parles. Tu sais sans doute ce qui est cool.
On va trouver quelque chose, t'en fais pas, chérie.
Quelque chose qui pourrait me faire aimer tout le monde. Maman, au bahut, tous les élèves cool ont des jeans citoyens de la Terre. Et il se trouve que je suis la seule personne de tout l'établissement à pas en avoir.
Chérie, ce qui peut conduire les gens à plus ou moins t'aimer ne dépend absolument pas de ce que tu portes sur toi, mais de ce qu'il y a en toi. Ce que tu dois montrer aux autres, c'est ta lumière intérieure.
Maman, je t'assure, le collège, c'est atroce. Parce que tout le monde te juge sur le moindre détail. Si t'as la chance qu'on s'intéresse à toi. T'as jamais désiré quelque chose au point d'être prête à mourir pour ça?
Les chaussures de drôle de dame.
Dialogue entre une mère et sa fille dans la série comique The Middle. Alors Valérie Alphon, je rappelle que vous êtes l'auteur de Tout le monde en a un sauf moi. Hein. C'est difficile de résister, on l'entend là dans l'extrait. L'une des grandes questions à se poser en famille, c'est en a-t-on vraiment besoin, en a-t-on vraiment envie de ce produit, de ce service?
Complètement. Mais il faut dire que... comme on disait tout à l'heure, les enfants sont ciblés, manipulés. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont, je dirais, très insidieuses. Comme, par exemple, aujourd'hui, on a les influenceurs, Instagrammeurs, YouTubeurs. Et si, vous savez, auparavant, les représentants de maisons de vêtements allaient autour des écoles et repéraient les leaders et leur offraient des habits pour qu'ils donnent envie à tout le monde. Aujourd'hui, les entreprises ont accès à une cour de récré puissance 1000, ça s'appelle Instagram. Et donc, on a des Instagrammeurs qui font, entre guillemets, la pub de vêtements, par exemple. Du coup, ça crée un effet de pression sociale. C'est difficile pour les jeunes de résister.
Christiane nous dit sur notre page Facebook que dès l'enfance, il faut apprendre à faire la différence entre l'envie et le besoin. L'envie est un sujet de frustration, mais la frustration fait grandir.
complètement, ben, vous connaissez le fameux marshmallow test, hein, qui a été fait aux États-Unis, où on demandait à des enfants s'ils voulaient, ils avaient devant un bonbon, un marshmallow, et s'ils attendaient, ils en auraient un autre, et s'ils n'attendaient pas, et ben, ils n'en auraient qu'un seul. Et après, on a suivi les enfants et on s'est rendu compte que ceux qui avaient attendu étaient bien plus successful, enfin, ils réussissaient dans tous les domaines, bien plus que ceux qui n'avaient pas attendu, parce que la frustration, non seulement elle fait grandir, mais elle fait, elle nous change, elle nous bonifie quelque part.
Rémi Guéry.
Le phénomène des réseaux sociaux est très intéressant parce qu'en fait, les jeunes ne pensent pas consommer quand ils vont sur ces réseaux. Et en fait, ils cherchent à être eux-mêmes, ils cherchent à trouver des moyens de s'embellir, d'être plus beau. De, vous voyez, c'est ça aussi le sujet, c'est qu'en fait, et donc pour être plus beau, pour être meilleur, pour être plus mis en valeur, ils sont prêts à des sacrifices. Et c'est pas de la consommation. Ça devient de la consommation parce qu'après il faut payer. Mais au départ, c'est une quête de soi. Et c'est ça qui est compliqué dans toute cette affaire.
Bonjour Sarah, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Cachan. Quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour ?
Alors, moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, une jeune femme qui a 20 ans et 2 enfants. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien Sarah.
Oui, oui. Et 2 enfants qui sont en élémentaire, 2 garçons. Et je suis surtout professeure des écoles. Mmh. Et j'ai été plutôt dans les écoles populaires. Et il s'avère que moi, j'ai vraiment constaté que la plupart du temps, que souvent, la consommation des enfants était aussi un moyen pour les parents de pouvoir assouvir un certain besoin matériel et d'être au même niveau que les autres. C'est-à-dire que les parents achètent beaucoup ou cherchent beaucoup à acheter ce qui est à la mode et au dernier cri pour justement montrer qu'ils sont capables de les acheter.
Pour affirmer un statut social, c'est ça ?
Voilà, exactement. C'est aussi un moyen d'acquérir un statut social différent, de savoir qu'on a augmenté le statut social par rapport à nos propres parents. Moi, j'ai connu des parents qui avaient acheté une télévision à mettre dans la chambre de leur fils, alors qu'ils avaient déjà une télévision. Et en fait, y a tout un discours à avoir. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui, notamment, n'ont pas beaucoup de moyens, les enfants leur servent à assouvir ces besoins qu'ils n'ont pas eu, eux, quand ils étaient enfants.
Rémi de Guiry.
Oui, moi ça me frappe, ça veut dire que en fait, c'est les parents sont des enfants en réalité. Ils se comportent comme des enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les enfants entre guillemets à guérir, mais il y a les parents aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui sont quand même une génération qui a été elle-même largement éduquée et nourrie et alimentée à la société de consommation. Donc effectivement, votre travail, il est double, les enfants et les parents.
Et le sociologue américain Thorsten Veblen l'expliquait très bien dans la théorie de la classe de loisirs, ce que vient de nous dire Sarah Rémy Houdguéry.
Oui, la consommation statutaire, et l'enfant fait partie du jeu, et les parents veulent que leurs enfants reflètent leur statut social.
Joël Bray.
Oui, tout à fait, je crois que il y a quelque chose d'assez frappant quand on regarde, par exemple, la consommation de Noël dans les années qui ont suivi la crise de 2008. Beaucoup de familles ont serré de manière assez notable le budget de Noël, mais il y a un poste budgétaire qui a été totalement sanctuarisé, c'était le poste cadeau de Noël pour les enfants. Il y a vraiment cette volonté, je dirais, parce qu'on investit dans les enfants, parce qu'on veut leur faire plaisir, surtout de préserver ça. Et c'est vraiment quand on est, je dirais, rendu aux dernières extrémités qu'on va essayer de rogner un petit peu sur ce poste budgétaire.
Julien Bisson.
Oui, ça me fait un petit peu sourire parce que en même temps, il y a quand même une chose que tout le monde dit en début janvier, c'est il y avait trop de cadeaux pour les enfants.
Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir appelé. Alors, Valérie Alphon, pour moins consommer, mieux consommer en famille, il est important de discuter de ce qu'on aime vraiment faire ensemble. Et c'est souvent des choses simples qui ne coûtent rien.
Complètement. Alors, je voudrais dire que pour voir des étoiles dans les yeux de nos enfants, pas besoin de leur offrir la lune. Et donc, on n'est pas obligé. Alors, pour voir des étoiles dans les yeux de nos enfants, on peut partir se promener un week-end dans la forêt, dans la nature. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bien. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui a montré que les plus beaux souvenirs d'enfance, c'était des promenades au bord de la mer. Donc, c'est complètement ça. pour voir des étoiles dans les yeux de nos enfants. On peut tout simplement cuisiner ensemble. Et d'un côté, on va s'éloigner un peu de la malbouffe. Et en plus de ça, les enfants vont pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Pour voir des étoiles dans les yeux de nos enfants, on peut tout à fait jouer avec eux à des jeux de société. Et surtout, développer deux choses. Donc, l'envie de faire, c'est-à-dire leur montrer comment développer leur compétences, leurs dons, leur capacité, et bien sûr, se tourner vers les autres. Et ça, c'est essentiel. Je ne sais pas si vous avez vu passer un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui, sur les réseaux sociaux, justement, il a vu un SDF, il a été bouleversé, et maintenant, il peint des toiles qu'il vend pour donner à manger donc aux SDF. C'est ça qu'on devrait faire.
Mieux de guérir.
Mais encore faut-il que les parents jouent le jeu. Parce que le phénomène quand même marquant des dernières années, c'est que les parents eux-mêmes, parce qu'on parle du smartphone pour les ados et les enfants, mais en réalité les parents sont aussi de plus en plus sur leur smartphone. Et combien de familles à table sont chacun... Enfin, c'est un phénomène qui n'est pas du tout rare. Donc c'est aussi ça contre quoi on doit lutter. Est-ce qu'on se met mieux, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes ?
Joël Bruy.
Oui, je crois que, enfin, si on veut résumer un petit peu tous ces avis, je crois que la consommation est faite de paradoxes. Je suis d'accord sur le côté un peu magique des moments passés en famille, et je crois que ce sont effectivement des souvenirs que l'on garde ensuite pour très longtemps. Je crois que ça influence aussi énormément les valeurs des enfants, mais à côté de ça, dès qu'on revient, je dirais, en dehors de la sphère familiale et qu'on revient dans l'univers social, la dimension symbolique prend une part importante. Votre auditeur tout à l'heure évoquait effectivement le fait que les enfants n'avaient pas de télévision. Sauf qu'aujourd'hui, ils regardent de moins en moins la télévision sur un poste de télévision dans le salon, mais de plus en plus par le biais de l'ordinateur ou par le biais d'autres écrans ou de smartphones.
Question de Christelle de Royan. Il m'est difficile de ne pas céder à mon fils de 12 ans qui souhaite un smartphone de la marque à la pomme. Au collège, plusieurs de ses camarades en possèdent un. Il ne comprend pas mon refus. Comment ne pas culpabiliser quand on refuse, Valérie Alphond?
Déjà, comme on l'a dit...
Comment ne pas paraître comme un parent fouettard qui ne fait pas plaisir à ses enfants?
Déjà, il faut penser au dommage. Parce que pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas lui donner? Parce qu'elle a peur, j'imagine, que son enfant devienne zombie, et elle a sans doute raison. Donc, il faut déjà ne pas oublier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Quand on voit aujourd'hui les dommages causés par l'addiction aux jeux vidéo, les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui montrent que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on est malheureux. Donc, je veux dire...
Est-ce que ça suffit pour que, justement, l'enfant n'ait plus envie de ce smartphone, alors que dans la cour de récréation, ses camarades en ont un très coûteux, et ça fait partie du statut social dans la cour de récréation, au collège, notamment? C'est difficile, votre discours, je l'entends, mais...
Je dis pas que c'est facile, je dis pas du tout que c'est facile, mais c'est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on refuse.
Rémi Guéry.
Moi, pour quand même avoir une note d'espoir, je pense quand même que cette génération, elle est en train de prendre conscience des limites de l'exercice de la consommation à outrance. J'ai parlé tout à l'heure de l'occasion, du vintage aussi, on peut en parler. Je pense qu'aujourd'hui, dans les études, les plus consommateurs de vêtements vintage, ce sont les jeunes. Donc il y a un espoir là, parce que la consommation vintage, c'est de la consommation... Ce que vous appelez consommer mieux.
Oui, j'en parlais au début.
Joël Bruy.
Oui, je crois que... On parlait tout à l'heure de victimes, sont des victimes consentantes, parce que finalement, sont des victimes qui ont intégré un certain nombre de codes de la consommation et qui sont capables de prendre du recul par rapport à ces codes.
Merci à tous, merci Valérie Alphond. Tout le monde en a un, sauf moi, est publié chez Albin Michel. Merci Joël Bruy d'être venu, ainsi que Rémi Houdguiri. Vous revenez d'ailleurs demain, Rémi. On se demandera qui sont les millénials, cette génération dans les années 80 et 90, à la fois hyper connectée, engagée, narcissique, avide d'expériences nouvelles, mais également avide de stabilité, un peu comme vous, Julien Bisson. Vous n'êtes pas totalement millénial, vous êtes né dans les années 70. Si dans les années
80.
Et d'ailleurs, on se demandera si elle existe vraiment, cette génération des millénials, avec le journaliste Vincent Cogbert qui publie Millénial Burnout. Si vous faites partie de cette génération, si vos enfants, petits-enfants, neveux, cousins, collègues de travail en font partie, appelez-nous au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Pauline Laverdure et Maxime Ingrand.